Honoré de Balzac. Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau. Pendant la première année, César Birotteau mit sa femme au fait de la vente et du détail des parfumeries, métier auquel elle s'entendit admirablement bien. Elle semblait avoir été créée et mise au monde pour ganter les chalands. Cette année finie, l'inventaire épouvanta l'ambitieux parfumeur. Tout frais prélevé, en 20 ans à peine, aurait-il gagné le modeste capital de 100 000 francs auquel il avait chiffré son bonheur. Il résolut alors d'arriver à la fortune plus rapidement et voulut d'abord joindre la fabrication au détail. Contre l'avis de sa femme, il loua une baraque et des terrains dans le faubourg du Temple et y fit peindre en gros caractères « Fabrique de César Birotteau ». Il débaucha de grâce un ouvrier avec lequel il commença de compte à demi quelques fabrications de savon, d'essence et d'eau de Cologne. Son association avec cet ouvrier ne dura que 6 mois et se termina par des pertes qu'il supporta seul. Sans se décourager, Birotteau voulut obtenir un résultat à tout prix, uniquement pour ne pas être grondé par sa femme, à laquelle il avoua plus tard qu'en ce temps de désespoir la tête lui bouillait comme une marmite et que plusieurs fois, n'étaient ses sentiments religieux, il se serait jeté dans la Seine. Désolé de quelques expériences infructueuses, il flânait un jour le long des boulevards en revenant dîner, car le flâneur parisien est aussi souvent un homme au désespoir qu'un oisif. Parmi quelques livres à 6 sous étalés dans une manne à terre, ses yeux furent saisis par ce titre jaune de poussière. Abdecker, ou l'art de conserver la beauté. Il prit ce prétendu livre arabe, espèce de roman fait par un médecin du siècle précédent, et tomba sur une page où il s'agissait de parfums. Appuyé sur un arbre du boulevard pour feuilleter le livre, il lut une note où l'auteur expliquait la nature du derme et de l'épiderme et démontrait que telle pâte ou tel savon produisait un effet souvent contraire à celui qu'on en attendait. Si la pâte et le savon donnaient du ton à la peau qui voulait être relâchée ou relâchaient la peau qui exigeait des toniques. Birotteau acheta ce livre où il vit une fortune. Néanmoins, peu confiant dans ses lumières, il alla chez un chimiste célèbre, Vauquelin, auquel il demanda tout naïvement les moyens de composer un double cosmétique qui produisit des effets appropriés aux diverses natures de l'épiderme humain. Les vrais savants, ces hommes si réellement grands, en ce sens qu'ils n'obtiennent jamais de leur vivant le renom par lequel leurs immenses travaux inconnus devraient être payés, sont presque tous serviables et sourient aux pauvres d'esprit. Vauquelin protégea donc le parfumeur, lui permit de se dire l'inventeur d'une pâte pour blanchir les mains et dont il lui indiqua la composition. Birotteau appela ce cosmétique la double pâte des sultanes. Afin de compléter l'œuvre, il appliqua le procédé de la pâte pour les mains à une eau pour le teint, qu'il nomma l'eau carminative. Il imita dans sa partie le système du petit matelot. Il déploya, le premier d'entre les parfumeurs, ce luxe d'affiches, d'annonces et de moyens de publication que l'on nomme peut-être injustement charlatanisme. La pâte des sultanes et l'eau carminative se produisirent dans l'univers galant et commercial par des affiches coloriées, en tête desquelles étaient ces mots « approuvés par l'Institut ». Cette formule, employée pour la première fois, eut un effet magique. Non seulement la France, mais le continent fut pavoisé d'affiches jaunes, rouges, bleues, par le souverain de la Reine des Roses qui tenait, fournissait et fabriquait, à des prix modérés, tout ce qui concernait sa partie. À une époque où l'on ne parlait que de l'Orient, nommer un cosmétique quelconque « pâte des sultanes », en devinant la magie exercée par ces mots, dans un pays où tout homme tient autant à être sultan que la femme à devenir sultane, était une inspiration qui pouvait venir à un homme ordinaire comme à un homme d'esprit. Mais le public jugeant toujours les résultats, Birotteau passa d'autant plus pour un homme supérieur, commercialement parlant, qu'il rédigea lui-même un prospectus dont la ridicule phraséologie fut un élément de succès. En France, on ne rit que des choses et des hommes dont on s'occupe, et personne ne s'occupe de ce qui ne réussit point. Quoique Birotteau n'eût pas joué sa bêtise, on lui donna le talent de savoir faire la bête à propos. Il s'est retrouvé, non sans peine, un exemplaire de ce prospectus dans la maison Popineau et compagnie, droguiste, rue des Lombards. Cette pièce curieuse est au nombre de celles que, dans un cercle plus élevé, les historiens intitulent « pièce justificative ». La voici donc. Double pâte des sultanes et eau carminative de César Birotteau, découverte merveilleuse approuvée par l'Institut de France. Depuis longtemps, une pâte pour les mains et une eau pour le visage, donnant un résultat supérieur à celui obtenu par l'eau de Cologne dans l'œuvre de la toilette, était généralement désirée par les deux sexes en Europe. Après avoir consacré de longues veilles à l'étude du derme et de l'épiderme chez les deux sexes, qui l'un comme l'autre attachent avec raison le plus grand prix à la douceur, à la souplesse, au brillant, au velouté de la peau, le sieur Birotteau, parfumeur avantageusement connu dans la capitale et à l'étranger, a découvert une pâte et une eau à juste titre nommées dès leur apparition merveilleuse par les élégants et par les élégantes de Paris. En effet, cette pâte et cette eau possèdent d'étonnantes propriétés pour agir sur la peau, sans la rider prématurément, effet immanquable des drogues employées inconsidérément jusqu'à ce jour et inventées par d'ignorantes cupidités. Cette découverte repose sur la division des tempéraments qui se rangent en deux grandes classes indiquées par la couleur de la pâte et de l'eau, lesquelles sont roses pour le derme et l'épiderme des personnes de constitution lymphatique et blanches pour ceux des personnes qui jouissent d'un tempérament sanguin. Cette pâte est nommée pâte des sultanes parce que cette découverte avait déjà été faite pour le sérail par un médecin arabe. Elle a été approuvée par l'Institut sur le rapport de notre illustre chimiste Vauquelin, ainsi que l'eau établie sur les principes qui ont dicté la composition de la pâte. Cette précieuse pâte, qui exhale les plus doux parfums, fait donc disparaître les taches de rousseur les plus rebelles, blanchit les épidermes les plus récalcitrants et dissipe les sueurs de la main dont se plaignent les femmes non moins que les hommes. L'eau carminative enlève ces légers boutons qui dans certains moments surviennent inopinément aux femmes et contrarient leurs projets pour le bal. Elle rafraîchit et ravive les couleurs en ouvrant ou fermant les pores selon les exigences du tempérament. Elle est si connue déjà pour arrêter les outrages du temps que beaucoup de dames l'ont par reconnaissance nommée « l'amie de la beauté ». L'eau de Cologne est purement et simplement un parfum banal, sans efficacité spéciale, tandis que la double pâte des sultanes et l'eau carminative sont deux compositions opérantes d'une puissance motrice agissant sans danger sur les qualités internes et les secondants. Leurs odeurs essentiellement balsamiques et d'un esprit divertissant réjouissent le cœur et le cerveau admirablement, charment les idées et les réveillent. Elles sont aussi étonnantes par leur mérite que par leur simplicité. Enfin, c'est un attrait de plus offert aux femmes et un moyen de séduction que les hommes peuvent acquérir. L'usage journalier de l'eau dissipe les cuissons occasionnées par le feu du rasoir. Elle préserve également les lèvres de la gerçure et les maintient rouges. Elle efface naturellement à la longue les taches de rousseur et finit par redonner du ton aux chairs. Ces effets annoncent toujours en l'homme un équilibre parfait entre les humeurs, ce qui tend à délivrer les personnes sujettes à la migraine de cette horrible maladie. Enfin, l'eau carminative, qui peut être employée par les femmes dans toute leur toilette, prévient les affections cutanées en ne gênant pas la transpiration des tissus, tout en leur communiquant un velouté persistant. S'adresser franc de port à Monsieur César Birotteau, successeur de Ragon, ancien parfumeur de la reine Marie-Antoinette, à la Reine des Roses, rue Saint-Honoré à Paris, près de la place Vendôme. Le prix du pain de pâte est de 3 livres et celui de la bouteille est de 6 livres. Monsieur César Birotteau, pour éviter toutes les contrefaçons, prévient le public que la pâte est enveloppée d'un papier portant sa signature et que les bouteilles ont un cachet incrusté dans le verre. Le succès fut dû, sans que César s'en doutât, à Constance qui lui conseilla d'envoyer l'eau carminative et la pâte des sultanes par caisse à tous les parfumeurs de France et de l'étranger en leur offrant un gain de 30% s'ils voulaient prendre ces deux articles par grosse. La pâte et l'eau valaient mieux en réalité que les cosmétiques analogues et séduisaient les ignorants par la distinction établie entre les tempéraments. Les 500 parfumeurs de France, alléchés par le gain, achetèrent annuellement chez Birotteau chacun plus de 300 grosses de pâte et d'eau, consommation qui lui produisit des bénéfices restreints quant à l'article, énorme par la quantité. César put alors acheter les bicoques et les terrains du faubourg du Temple. Il y bâtit de vastes fabriques et décora magnifiquement son magasin de la Reine des Roses. Son ménage éprouva les petits bonheurs de l'aisance et sa femme ne trembla plus autant. En 1810, Madame César prévit une hausse dans les loyers. Elle poussa son mari à se faire principal locataire de la maison où ils occupaient la boutique et l'entresol, et à mettre leur appartement au premier étage. Une circonstance heureuse décida Constance à fermer les yeux sur les folies que Birotteau fit pour elle dans son appartement. Le parfumeur venait d'être élu juge au tribunal de commerce. Sa probité, sa délicatesse connue et la considération dont il jouissait lui valurent cette dignité qui le classa désormais parmi les notables commerçants de Paris. Pour augmenter ses connaissances, il se leva dès 5 heures du matin, lut les répertoires de jurisprudence et les livres qui traitaient des litiges commerciaux. Son sentiment du juste, sa rectitude, son bon vouloir, qualité essentielle dans l'appréciation des difficultés soumises aux sentences consulaires, le rendirent un des juges les plus estimés. Ses défauts contribuèrent également à sa réputation. En sentant son infériorité, César subordonnait volontiers ses lumières à celles de ses collègues, flattés d'être si curieusement écoutés par lui. Les uns recherchèrent la silencieuse approbation d'un homme censé profond en sa qualité d'écouteur, les autres, enchantés de sa modestie et de sa douceur, le vantèrent. Les justiciables louèrent sa bienveillance, son esprit conciliateur, et il fut souvent pris pour arbitre en des contestations où son bon sens lui suggérait une justice de caddie. Pendant le temps que durèrent ses fonctions, il sut se composer un langage farci de lieux communs, semé d'axiomes et de calculs traduits en phrases arrondies, qui, doucement débitées, sonnaient aux oreilles des gens superficiels comme de l'éloquence. Il plut ainsi à cette majorité naturellement médiocre, à perpétuité condamnée aux travaux, aux vues du terre-à-terre. César perdit tant de temps au tribunal que sa femme le contraignit à refuser désormais ce coûteux honneur. Vers 1813, grâce à sa constante union et après avoir vulgairement cheminé dans la vie, ce ménage vit commencer une ère de prospérité que rien ne semblait devoir interrompre. Monsieur et Madame Ragon, leurs prédécesseurs, leur oncle Pillerault, Roguin le notaire, les Matifat, droguistes de la rue des Lombards, fournisseurs de la Reine des Roses, Joseph Lebas, marchand drapier, successeur des Guillaume, aux Chats qui pelotent, une des lumières de la rue Saint-Denis, le juge Popineau, frère de Madame Ragon, Chiffreville, de la maison Protez et Chiffreville, monsieur et madame Cochin, employés au trésor et commanditaires des Matifat, l'abbé Loraux, confesseur et directeur des gens pieux de cette coterie, et quelques autres personnes, composaient le cercle de leurs amis. Malgré les sentiments royalistes de Birotteau, l'opinion publique était alors en sa faveur. Il passait pour être très riche, quoiqu'il ne possédât encore que 100 000 francs en dehors de son commerce. La régularité de ses affaires, son exactitude, son habitude de ne rien devoir, de ne jamais escompter son papier et de prendre au contraire des valeurs sûres à ceux auxquels il pouvait être utile, son obligeance lui méritait un crédit énorme. Il avait d'ailleurs réellement gagné beaucoup d'argent, mais ses constructions et ses fabriques en avaient beaucoup absorbé. Puis sa maison lui coûtait près de 20 000 francs par an. Enfin, l'éducation de Césarine, fille unique idolâtrée par Constance autant que par lui, nécessitait de fortes dépenses. Ni le mari ni la femme ne regardaient à l'argent quand il s'agissait de faire plaisir à leur fille, dont ils n'avaient pas voulu se séparer. Imaginez les jouissances du pauvre paysan parvenu quand il entendait sa charmante Césarine répétant au piano une sonate de Steibelt ou chantant une romance, quand il la voyait écrire correctement la langue française, lire Racine, père et fils, lui en expliquer les beautés, dessiner un paysage ou faire une sépia, revivre dans une fleur si belle, si pure, qui n'avait pas encore quitté la tige maternelle, un ange enfin, dont les grâces naissantes, dont les premiers développements avaient été passionnément suivis, admirés. Une fille unique, incapable de mépriser son père ou de se moquer de son défaut d'instruction, tant elle était vraiment jeune fille. En venant à Paris, César savait lire, écrire et compter, mais son instruction en était restée là. Sa vie laborieuse l'avait empêché d'acquérir des idées et des connaissances étrangères au commerce de la parfumerie. Mêlé constamment à des gens à qui les sciences, les lettres étaient indifférentes et dont l'instruction n'embrassait que des spécialités, n'ayant pas de temps pour se livrer à des études élevées, le parfumeur devint un homme pratique. Il épousa forcément le langage, les erreurs, les opinions du bourgeois de Paris qui admire Molière, Voltaire et Rousseau sur parole, qui achète leurs œuvres sans les lire, qui soutient que l'on doit dire « ormoire » parce que les femmes serraient dans ces meubles leur or et leur robe, autrefois presque toujours en moire, et que l'on n'a dit par corruption « armoire ». Potier, Talma, Mademoiselle Mars, étaient 10 fois millionnaires et ne vivaient pas comme les autres humains. Le grand tragédien mangeait de la chair crue, Mademoiselle Mars faisait parfois fricasser des perles pour imiter une célèbre actrice égyptienne. L'empereur avait dans ses gilets des poches en cuir pour pouvoir prendre son tabac par poignée. Il montait à cheval au grand galop l'escalier de l'orangerie de Versailles. Les écrivains, les artistes mouraient à l'hôpital par suite de leurs originalités. Ils étaient tous athées, il fallait bien se garder de les recevoir chez soi. Joseph Lebas citait avec effroi l'histoire du mariage de sa belle-sœur Augustine avec le peintre Sommervieux. Les astronomes vivaient d'araignées. Ces points lumineux de leurs connaissances en langue française, en art dramatique, en politique, en littérature, en sciences, expliquent la portée de ces intelligences bourgeoises. Un poète qui passe rue des Lombards peut, en y sentant quelques parfums, rêver l'Asie. Il admire des danseuses dans une chauderie en respirant du vétiver. Frappé par l'éclat de la cochenille, il y retrouve les poèmes brahmiques, les religions et leurs castes. En se heurtant contre l'ivoire brut, il monte sur le dos des éléphants, dans une cage de mousseline, et y fait l'amour comme le roi de Lahore. Mais le petit commerçant ignore d'où viennent et où croissent les produits sur lesquels il opère. Birotteau parfumeur ne savait pas un iota d'histoire naturelle ni de chimie. En regardant Vauquelin comme un grand homme, il le considérait comme une exception. Il était de la force de cet épicier retiré qui résumait ainsi une discussion sur la manière de faire venir le thé. « Le thé ne vient que de deux manières, par caravane ou par le Havre, » dit-il d'un air finaud. Selon Birotteau, l'aloès et l'opium ne se trouvaient que rue des Lombards. L'eau de rose prétendue de Constantinople se faisait, comme l'eau de Cologne, à Paris. Ces noms de lieux étaient des bourdes inventées pour plaire aux Français qui ne peuvent supporter les choses de leur pays. Un marchand français devait dire sa découverte anglaise afin de lui donner de la vogue, comme en Angleterre un droguiste attribue la sienne à la France. Néanmoins, César ne pouvait jamais être entièrement sot ni bête. La probité, la bonté jetaient sur les actes de sa vie un reflet qui les rendait respectables, car une belle action fait accepter toutes les ignorances possibles. Son constant succès lui donna de l'assurance. À Paris, l'assurance est acceptée pour le pouvoir dont elle est le signe. L'ayant apprécié durant les 3 premières années de leur mariage, sa femme fut en proie à des transes continuelles. Elle représentait dans cette union la partie sagace et prévoyante, le doute, l'opposition, la crainte, comme César y représentait l'audace, l'ambition, l'action, le bonheur inouï de la fatalité. Malgré les apparences, le marchand était trembleur, tandis que sa femme avait en réalité de la patience et du courage. Ainsi, un homme pusillanime, médiocre, sans instruction, sans idées, sans connaissances, sans caractère, et qui ne devait point réussir sur la place la plus glissante du monde, arriva par son esprit de conduite, par le sentiment du juste, par la bonté d'une âme vraiment chrétienne, par amour pour la seule femme qu'il eût possédée, à passer pour un homme remarquable, courageux et plein de résolution. Le public ne voyait que les résultats. Or Pillerault et le juge Popineau, les personnes de sa société, ne le voyant que superficiellement, ne pouvaient le juger. D'ailleurs, les 20 ou 30 amis qui se réunissaient entre eux disaient les mêmes niaiseries, répétaient les mêmes lieux communs, se regardaient tous comme des gens supérieurs dans leur partie. Les femmes faisaient assaut de bons dîners et de toilettes. Chacune d'elles avait tout dit, en disant un mot de mépris sur son mari. Madame Birotteau seule avait le bon sens de traiter le sien avec honneur et respect en public. Elle voyait en lui l'homme qui, malgré ses secrètes incapacités, avait gagné leur fortune et dont elle partageait la considération. Seulement, elle se demandait parfois ce qu'était le monde, si tous les hommes prétendus supérieurs ressemblaient à son mari. Sa conduite ne contribuait pas peu à maintenir l'estime respectueuse accordée aux marchands dans un pays où les femmes sont assez portées à déconsidérer leur mari et à s'en plaindre.